De la Révolution, elle attendait la beauté.
C'est peut-être une des premières femmes très médiatiques de la modernité. Le musée Grévin a ouvert en 1882. Alors, la première figure de cire sous les drapeaux rouges, à la tribune, etc. Puis, à partir du moment où elle a été mise en prison, elle a été déplacée. Et là, on l'a mise dans une cellule. Elle, à la table de sa cellule, on pouvait regarder à travers le guichet de la porte. Voilà.
Prénom ?
Louise.
Nom ?
Michel.
Date de naissance ?
29 mai 1830, dans un village austère de Haute-Marne, Vroncourt. Elle est la fille naturelle du château, élevée au milieu des légendes, entre d'un côté le piano, du côté paternel, et de l'autre, le rouet.
Profession ?
Institutrice, dans l'âme, et dans les circonstances les plus diverses, en Haute-Marne d'abord, au pied de la butte Montmartre, à Nouméa, dans les dernières années à Londres.
Une institutrice artiste en révolution ?
Elle attend la révolution comme un livre attend des images. Fondamentalement, c'est une écrivaine. Et ce qui est publié de son vivant n'est qu'une partie de ce qu'elle a produit. On peut le dire autrement, l'aurore de la Révolution sera poétique et musicale.
Et en 1871, la Commune ?
Le basculement. Elle anime un club, mais elle se tient le plus souvent extramuros, toujours prête aux escarmouches avec les Versaillais. Elle devient une figure de première importance pendant la Semaine sanglante et surtout lors de son procès en décembre, où elle met en avant sa responsabilité. Tu disais, je cite Victor Hugo, « J'ai tué car tu voulais mourir ».
En 1873, c'est la déportation.
En Nouvelle-Calédonie, elle y sera autre que les déportés qui l'entourent, manifestant curiosité, empathie pour le pays et ses habitants, les Kanaks.
Œuvre principale.
Des mémoires, la Commune, et on a publié récemment La Révolution en comptant, un recueil de ses contes et légendes.
Une militante libertaire inlassable.
Après son retour triomphal à Paris en 1880, elle va passer le quart de siècle suivant sur tous les fronts, la presse, l'édition, les meetings, quitte à retrouver encore plus d'une fois la prison.
Et sa mort ?
Le 9 janvier 1905 à Marseille. Elle est enterrée à Levallois-Perret, où elle avait installé son modeste domicile en 1886. La ville a beaucoup changé. La municipalité Balkany a conservé son souvenir, plutôt mal que bien. Mais à travers le pays, près de 200 établissements scolaires porte son nom.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Eh bien, sa mémoire a été disputée par les libertaires et par les communistes. Elle apparaissait pour les uns et les autres comme le vivant portrait du prolétariat et, à cause de son attitude en Nouvelle-Calédonie, comme une pionnière de l'anticolonialisme. Mais c'était aussi, pour les partisans d'une république sociale, démocratique, idéale, la grande citoyenne, et ce fut enfin, une grande figure du féminisme. Et quand vint la gauche au pouvoir il y a 40 ans et qu'Yvette Roudy accéda au gouvernement, eh bien, elle est devenue une figure officielle. Mais il est temps de redécouvrir l'artiste. Notre interlocutrice, ce sera Claude Retta, qui a réuni ce volume de contes de Louise Michel et publié Une artiste en révolution. Le foyer où s'alimente la flamme de Louise Michel, c'est le dessin, c'est la musique, c'est l'écriture. Et puis il y a ce souvenir de l'enfance, Vroncourt, en Haute-Marne, et les veillées autour de la cheminée.
Dans la neige et dans la forêt prochaine, et au bruit des loups qui hurlent. À l'enfance de Louise Michel, c'est vraiment le terreau de Louise Michel, à la fois de la militante et de l'écrivaine, qui ne font qu'un d'ailleurs. C'est également une grande source de souffrance, puisqu'elle le rappelle, elle était la petite bâtarde, celle à qui on disait « Toi, petitote, ta place est au cimetière ».
Ah oui, vraiment ?
C'est ce qu'elle raconte à Victor Hugo, en tout cas, dans ses lettres. Elle était de trop, en quelque sorte, ou en tout cas, elle était hors cadre. Et cela, on le retrouve tout au long de sa vie, c'est une déclassée. À la fois, on le lui reproche, et d'un autre côté, elle le revendique. Ce qui explique peut-être une grande partie de sa sensibilité littéraire et musicale. Et par exemple, toute sa manie, on pourrait dire, de ce qu'elle appelle les quarts de ton en musique. C'est-à-dire de creuser les espaces musicaux pour aller au-delà des normes, des conventions musicales en cours. Cela est peut-être une manière, justement, de trouver en musique également ce qui est déclassé, ce qui est bâtard, finalement, ce qui est hors place.
Quand elle recevait à la fin de sa vie, il y avait un piano à Levallois-Perret, et la musique dans l'enfance avait une place ?
La musique dans l'enfance avait une place, puisqu'elle a appris le piano avec sa grand-mère paternelle. Sans doute la grand-mère maternelle, plutôt, pour tout ce qui est... petites chansons populaires, comptines, etc., choses du terroir. Et la grand-mère paternelle lui dispensait une éducation vraiment de jeune fille de très bonne famille.
Parmi les premières pièces conservées, enfin qui remontent très loin dans le temps, il y a des chansons ou des poèmes mis en chanson.
Tout à fait. Ce sont des chansons très, très déconcertantes pour quiconque a des préjugés sur Louise Michel. C'est pas du tout ce qu'on attend d'elle. C'est des histoires de un petit peu de cap et d'épée. Donc c'est pas la Louise Michel, disons la Louise Michel militante qu'on a tendance à attendre partout. Mais c'est la Louise Michel aventurière déjà, la Louise Michel qui ressent fortement l'appel de l'inconnu, des grands bois, des grands chemins, etc.
Il y a une grande part de religieux aussi dans cette enfance.
Cet héritage religieux, ça a été un premier contact avec tout ce qui excite les sens. La révolution pour elle, ce sont des chœurs gigantesques, c'est le souffle à la fois de la musique et du vent, les grandes orgues des canons, ou le canon des grandes orgues, enfin tout cela se mêle.
Donc l'anecdote selon laquelle... Elle s'interrompt de combattre pendant la semaine sanglante pour aller jouer de l'orgue. C'est une anecdote qui a du sens.
Tout à fait. C'est probablement vrai. Enfin, il n'y a pas de raison, a priori, d'en douter. C'est dans un temple protestant. Elle a joué de cet orgue, le temple de Neuilly, je crois. Et j'ai cherché un petit peu à me renseigner. Cet orgue a disparu.
Est-elle d'ailleurs jamais passée au profane de ses idées ? Elle parlera toujours comme de croyance. Quand elle a atteint ses 20 ans, une fois disparus les châtelains qui l'avaient conçue et protégée, il a fallu quitter Vroncourt, mais pas la Haute-Marne. On la retrouve à Audeloncourt, où elle a ouvert une école libre. Alors on ne sait pas grand-chose de son enseignement, on l'imagine volontiers frondeur, avec des dictées peut-être à l'ancienne, mais décrivant en pleine époque Napoléon III, un méchant empereur romain.
L'école d'Audeloncourt.
Domitien régnait. Il avait banni de Rome les philosophes et les savants, augmenté la solde des prétoriens, rétabli les jeux capitolins. Et l'on adorait le clément empereur en attendant qu'on le poignardât. Pour les uns, l'apothéose est avant, pour les autres, elle est après. Voilà tout. Nous sommes à Rome, en l'an 95 de Jésus-Christ.
Mais Audeloncourt a beau être une école libre, l'inspecteur d'académie veille au chef-lieu, à Chaumont.
Mademoiselle Michel, vous avez insulté Sa Majesté l'Empereur en le comparant à Domitien. Et si vous n'étiez pas si jeune, on serait en droit de vous envoyer à Cayenne.
Ceux qui reconnaissent M. Bonaparte au portrait de Domitien l'insultent tout autant. Mais bien sûr, c'est lui que je voulais dépeindre.
L'inspecteur d'académie s'est faillé. Il va finalement être convaincu par la sincérité de Louise Michel et il va l'aider longtemps dans sa tâche d'institutrice et dans sa vocation poétique. Dans les dernières années du Second Empire, elle quitte cependant la Haute-Marne pour son premier voyage, pour Paris, où elle établit une autre école libre dans le 18e, flanquée par sa mère, dont elle se séparera le moins possible, sa mère Marianne. Et là aussi, elle trouvera un autre protecteur inattendu en la personne du jeune maire, Georges Clémenceau, qui ne lui manquera jamais. Et ce, dès 1870, quand Paris, sous le commandement contesté de Trochu, était assiégé par les Prussiens.
Il y avait en ce moment à ma classe presque 200 élèves, des fillettes de 6 à 12 ans, que nous instruisions, ma sous-maîtresse et moi, et de tout petits enfants de 3 à 6 ans, garçons et filles, dont ma mère s'était chargée et qu'elle gâtait beaucoup. Les grandes de ma classe l'aidaient, tantôt l'une, tantôt l'autre. Les petits, dont les parents étaient des gens de la campagne, réfugiés à Paris, avaient été envoyés par Clémenceau. Alors, la mairie s'était chargée de leur nourriture, ils avaient du lait, du cheval, des légumes, et très souvent quelques friandises. Un jour que le lait tardait, les plus jeunes, peu habitués à attendre, se mirent à pleurer. Ma mère, en les consolant, pleurait avec eux. Je ne sais comment, je m'avisais, pour les faire attendre avec plus de patience, de les menacer, s'ils ne se taisaient pas, de les envoyer chez Trochu. Alors aussitôt, ils crièrent avec effroi, « Mademoiselle, nous serons bien sages, ne nous envoyez pas chez Trochu !»
Trochu, du verbe « trochoir », disaient les futurs communards. Oui, parce que quelques mois plus tard, c'est à Montmartre que commence l'insurrection de la Commune. D'institutrice, Louise Michel est devenue ambulancière et porte-parole de la garde nationale du 18e, quand l'armée régulière, sur l'ordre de Thiers, tente de lui reprendre ses canons.
18 mars 1871. Craignant un soulèvement populaire, l'Assemblée de Versailles envoya l'armée reprendre les canons de Montmartre et de Belleville.
Je descendis la butte, ma carabine sous mon manteau, en criant trahison. Une colonne se formait. Tout le comité de vigilance était là. Ferré, le vieux Moreau, Avronzard, Lemonnier, Burlot. Montmartre s'éveillait, le rappel battait. Dans l'aube grise qui se levait, on entendait le tocsin. Nous montions au pas de charge, sachant qu'au sommet, il y avait une armée rangée en bataille. Nous pensions mourir pour la liberté. On était comme soulevés de terre. Nous, morts. Paris se fut levé. Les foules, à certaines heures, sont à l'avant-garde de l'océan humain. La butte était enveloppée d'une lumière blanche, une aube splendide de délivrance.
Louise Michel, pendant les 72 jours de la Commune, n'est pas la femme la plus mise en avant. Certes, le soir, elle est très écoutée dans les clubs où elle est oratrice, mais la nuit, elle se tient généralement extramuros, dans les postes de garde, là où se multiplient les escarmouches avec les Versaillais, prêtes à en découdre. Et c'est familiarisée avec les armes qu'elle combat jusqu'au dernier instant pendant la semaine sanglante. L'exécution de Ferré, un des rares hommes dont on soit assuré qu'elle l'a aimé, la bouleverse. L'observation de Victor Hugo, qu'elle n'a cessé d'admirer, est juste. Tu disais « J'ai tué car tu voulais mourir ». Et en effet, ces déclarations sacrificielles à son procès vont la hisser pour la première fois au rang de symbole. Désormais, elle va devoir ressembler en tout point à ce qu'elle a dit si haut et si fort à ses juges en décembre 1871.
Vous avez entendu les faits dont on vous accuse. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?
Je ne veux pas me défendre. Je ne veux pas être défendu. J'appartiens tout entière à la révolution sociale et je déclare accepter la responsabilité de tous mes actes. Je l'accepte tout entière et sans restriction. L'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. Je voulais opposer une barrière de flammes aux envahisseurs de Versailles. Je n'ai pas de complice pour ce fait. J'ai agi d'après mon propre mouvement. On me dit aussi que je suis complice de la Commune. Assurément, oui, puisque la Commune voulait avant tout la révolution sociale et que la révolution sociale est le plus cher de mes vœux. Bien plus. Je me fais honneur d'être l'un des promoteurs de la Commune, qui n'est d'ailleurs pour rien. Pour rien, qu'on le sache bien, dans les assassinats et les incendies. Moi, qui ai assisté à toutes les séances de l'Hôtel de Ville, je déclare que jamais il n'y a été question d'assassinat ou d'incendie. Voulez-vous connaître les vrais coupables ? Ce sont les gens de la police. Et plus tard, peut-être, la lumière se fera sur tous ces événements dont on trouve aujourd'hui tout naturel de rendre responsables tous les partisans de la révolution sociale.
Dans une proclamation, vous avez dit qu'on devait, tous les 24 heures, fusiller un otage.
Non. J'ai seulement voulu menacer. Mais pourquoi me défendrais-je ? Je vous l'ai déjà déclaré, je me refuse à le faire. Vous êtes des hommes qui allez me juger. Vous êtes devant moi à visage découvert. Vous êtes des hommes et moi je ne suis qu'une femme. Et pourtant je vous regarde en face. Je sais bien que tout ce que je pourrais vous dire ne changera en rien votre sentence. Donc un seul et dernier mot avant de m'asseoir. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la Révolution. Je le jure, par nos martyrs tombés sur le champ de Satori, par nos martyrs que j'acclame encore ici hautement et qui un jour trouveront bien un vengeur. Encore une fois, je vous appartiens. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Prenez ma vie si vous le voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant.
Quand la foule aujourd'hui muette, comme l'océan grondera, et qu'à mourir elle sera prête, la commune se relèvera. Nous reviendrons foule sans nombre, nous viendrons par tous les chemins, spectres vengeurs sortant de l'ombre, nous viendrons nous serrant les mains, les uns pâles dans les suaires, les autres encore sanglants, les trous des balles dans leurs flancs, la mort portera la bannière, le drapeau noir crêpe de sang, et pourpre fleurira la terre, libre sous le ciel flamboyant.
Intelligence, service, France Inter.
Monsieur Lebrun, en décembre 1871, Victor Hugo écrit ces lignes, évoquant Louise Michel. Je le cite. Les juges murmuraient qu'elle meurt, c'est juste. Elle est infâme. À moins qu'elle ne soit auguste, disait leur âme.
On s'agrée aujourd'hui à Victor Hugo, qui va devenir un correspondant régulier de Louise Michel, de n'avoir pas condamné sans appel, comme beaucoup de ses confrères, la Commune, dont on sait l'intérêt qu'elle suscite en ce 150e anniversaire de sa proclamation et de sa chute. Après la chute, c'est la terre de la grande punition. D'abord la prison, en Haute-Marne, que Louise Michel retrouve à Aubrive. Elle est la détenue numéro 2182. Et elle essaye aussitôt d'imaginer les 2181 autres. Puis vient la déportation, ce sera la Nouvelle-Calédonie, affectée depuis peu à cette fonction. Elle embarque en 1873 sur la Virginie. Elle est en cage sur le pont avec ses camarades, mais libre de ses mouvements quelques heures par jour. On pense au voyage forcé de Baudelaire qu'elle aimait beaucoup vers les mers du Sud. En tout cas, elle qui rêvait depuis longtemps de partir, voilà qu'elle se tient entre ciel et mer. « Oh, comme tout enfant, dit-elle, j'ai vu de blanches voiles s'en aller sur les flots dans mes rêves le soir. » Claude Rétat.
Alors la curiosité qui la meut va de pair avec une sorte de culpabilité de cette curiosité, ce qui est toujours intéressant et qui se lit très bien dans les mémoires. Elle a en quelque sorte honte d'être si sensible à la beauté des choses et de jouir tellement de la beauté des choses alors qu'elle voit ses camarades, les uns être... verts tellement ils ont été malades de la traversée, les autres complètement abattus par la situation, etc. Et on retrouve là cette espèce d'appétence esthétique de Louise Michel qui fait que dans toutes les situations, que ce soit même dans les jours les plus lugubres qu'elle a vécu pendant la Commune, pendant son incarcération notamment au chantier à Versailles, ou en déportation, alors qu'elle arrive dans un monde complètement inconnu, après un voyage redoutablement long et éprouvant, eh bien il y a toujours cette espèce d'émerveillement et de jouissance esthétique. Donc en Nouvelle-Calédonie, ce qui motive cette jouissance esthétique, c'est la beauté des lieux, tout simplement.
Deux fois par an, les lianes qui couvrent la forêt se chargent de fleurs, presque toutes blanches ou jaunes. Les feuilles ont toutes les formes possibles. Celles du tarot sont en fer de flèche, d'autres en forme de feuilles de vigne. La liane à pomme d'or fleurit comme l'oranger. La liane fuchsia couvre le sommet des arbres d'une neige de pendants d'oreilles d'un blanc de lait. Sur la forêt entière flottent dans les airs, balancées au vent ou jetées en folles arabesques, des lianes pareilles à des houblons, à des clématites aux fleurs d'or. Une fois, deux fois par an quelquefois, une neige grise enveloppe la presqu'île, tourbillonnant par flocons. On a quelquefois plus que les chenilles. Ce sont les sauterelles, feuilles, légumes, herbes tendres. Quand il y en a dans les vieilles brousses, tout est dévoré, à part les troncs des arbres. Les branches, éplorées sous les grands clairs de lune, se lèvent comme des bras de géants, dégageant par les nuits obscures une phosphorescence. Terre de bois précieux, de bois de rose, d'acajou, de bois de fer, de banyan. Dans les endroits de forêt vierge, des centaines de roussettes pendues par les pieds aux arbres soulèvent leurs fines têtes de renard.
C'est seulement 20 ans plus tôt, en 1853, que la France avait pris possession de la Nouvelle-Calédonie et Louise Michel a été missionnée par telle ou telle autorité scientifique de Paris pour en dire, en savoir davantage sur la faune et la flore de l'archipel. Et d'ailleurs, en 73-74, elle n'y est pas à proprement parler enfermée et elle a la liberté de prendre certaines initiatives dans un périmètre délimité par le gouverneur.
Quand on m'a dit que vous aviez réquisitionné un bâtiment de l'État pour vacciner des arbres, j'ai voulu voir ça de plus près, madame.
Il est dit dans le règlement, monsieur le gouverneur, article 7, que chaque déporté est libre de ses constructions à condition d'utiliser des outils de sa fabrication.
Et arrêtez de nous parler de règlement. Personne ne vous a donné l'autorisation de vous installer ici.
J'ai 4 arbres en cure, des papayers, et que la lumière de ce lieu est parfaite pour la cure que je leur réserve.
Une cure à des arbres? Et qu'est-ce que vous nous racontez là?
Les arbres, tout comme les hommes, monsieur, méritent qu'on s'occupe d'eux.
Je ne savais pas que vous étiez aussi docteur. Si la vaccination pouvait s'appliquer à des papayers, la faculté l'aurait déjà fait.
L'important, c'est que la science progresse, à la faculté ou ailleurs. C'est monsieur Drouin de Luis, président de la société d'acclimatation, qui m'encourage à profiter de mon séjour ici pour étudier la flore locale et en établir l'inventaire.
Drouin de Luis.
Exactement.
Bien. Bien, madame l'institutrice. Eh bien, voyons ça de plus près.
Alors donc, ce que je fais, c'est que je vaccine ces arbres avec de la sève d'autres papayers malades de la jaunisse.
Alors, elle vaccine les papayers, elle vaccine les bananiers, elle vaccine toutes sortes de végétaux. Et vous avez là sa dimension, la dimension scientifique de Louise Michel. C'est pas totalement anecdotique, d'une part à cause de la grande curiosité scientifique de Louise Michel qui se fait jour ici, mais ça attire également notre attention sur le fait qu'elle se pensait assez immodestement comme une sorte de rivale de Pasteur, et que, en tout cas, elle fait partie des forces anti-pasteuriennes de l'époque. Pasteur fait partie de ces bêtes noires.
Mais alors, parce qu'il inocule le mal, ou bien parce que il est un notable avec des pratiques qu'elle peut discuter?
Parce que c'est un notable, parce que c'est surtout un savant qui est un mercenaire de l'État, en quelque sorte. Et c'est également parce qu'il a trouvé le vaccin contre la rage. Pour Pasteur, eh bien, la rage, c'est une maladie qu'on guérit par un vaccin. Pour Louise Michel, la rage, c'est une maladie sociale. C'est une maladie qui est à la jointure de l'organique et du social. Qui est malade de la rage? C'est le loup. Pourquoi le loup est-il malade de la rage? Parce qu'il a une faim de loup. Donc la rage est une maladie de la faim. Et la maladie de la faim est une maladie créée par le mauvais fonctionnement de la société qui affame des êtres, pendant que d'autres, au contraire, sont gorgés de biens, de richesses, etc. Voilà, là, il est vraiment, c'est très intéressant. Évidemment, bon, ça prête à sourire au plan scientifique. On se dit que Louise Michel était embarquée dans des spéculations tout à fait peu positives, en tout cas pas positivistes. Mais ça révèle une pensée vraiment globale de la société et de la nature. Donc là, Louise Michel qui vaccine les bananiers est en même temps une Louise Michel totalement opposée au vaccin de la rage par Pasteur, parce que pour elle, la solution ultime, eh ben, c'est de guérir la société.
Alors qu'on lui dise que les Kanaks sont des sauvages, c'est pas ça qui va l'arrêter. Au contraire, il requiert évidemment sa curiosité. Les Français, depuis 1855, ont commencé à s'attribuer leurs terres. L'historienne Isabelle Merle, qui passe beaucoup de temps dans le lointain archipel, restitue ce moment tragique.
On est dans une progression massive d'une colonie de peuplement, qui est aussi un bagne, donc un bagne peuplant, hein, puisqu'on crée des villages pénaux. Et évidemment, les Kanaks sont en butte à des spoliations foncières, à des déplacements de population et à des humiliations, en particulier dans la partie ouest-sud de l'île, qui est à ce moment-là en voie de colonisation, le nord étant encore un peu à l'écart du mouvement, et aussi la côte est qui est touchée par la colonisation. Et donc son intérêt est d'abord sur les recommandations donc de Monsieur de Fleurville, donc de recueillir du vocabulaire. Elle est internée, en fait, elle est postée d'une certaine manière dans un territoire pénitentiaire qui est la presqu'île du Kos, qui est une presqu'île pas loin de Nouméa. Elle n'est pas dans l'univers carcéral déjà construit et très enfermant de l'île Nou. Les déportés sont placés sur des territoires et puis ils se débrouillent.
Alors, ils sont peu apporter la même attention que Louise Michel aux Kanaks. Ils sont peu à être animés par le même dynamisme intérieur qu'elle. L'attitude de Louise Michel est vraiment singulière.
C'est quelqu'un qui n'a pas peur et c'est quelqu'un qui est en empathie envers le monde kanak où elle rencontre des gens et des individus. Donc elle a cette espèce de posture où d'un côté elle a des idées, elle cherche l'origine du peuplement, donc elle invente un double peuplement qui est d'ailleurs dans la science de l'époque. Enfin voilà, elle réfléchit à ce niveau, elle les voit comme des grands enfants, elle est tout à fait évolutionniste hein, dans son analyse, c'est-à-dire dans ce regard éloigné un peu, c'est-à-dire des grands enfants à éduquer, sur lequel il faudrait donner un savoir scolaire auquel elle tient beaucoup, donc elle va s'efforcer de ça. Donc il y a clairement une imprégnation de l'idée des peuples primitifs, de la hiérarchie des peuples, ça, il n'y a pas de doute, elle est imprégnée de ça, mais en même temps, c'est quelqu'un qui cherche à les rencontrer et qui cherche à nouer des vraies relations, en fait, des relations interpersonnelles d'amitié qui visiblement vont la marquer parce qu'elle en reparlera ensuite dans la nostalgie qu'elle peut avoir du pays, de ces gens, en fait, qu'elle rencontre et avec lesquels elle noue autant qu'elle peut des relations. Il est très facile aujourd'hui de qualifier Louise Michel d'anticoloniale, ce qui irait avec une partie de ses idées qui sont extrêmement en avance. Je pense que c'est anachronique, en fait. Mais finalement, elle est très soutenue par des idées républicaines qui voient une mission civilisatrice. Donc, dans cette idée-là, Louise Michel n'est... Elle n'est pas en contestation de cette idée-là, elle n'est pas en dénonciation d'un système. Par contre, enfin, elle conteste vigoureusement l'idée d'hiérarchisation des peuples, quand même. Tout en étant, si vous voulez, tout en disant que les Kanaks sont dans l'enfance de l'humanité, qu'il faut les aider à grandir, elle dit aussi qu'ils sont des gens éminemment respectables, intelligents, qu'il faut travailler avec eux, et elle s'imagine que les tribus vont disparaître, que le monde coutumier, le monde kanak traditionnel, entre guillemets, va disparaître, et qu'il faudrait un métissage pour prendre les aspects positifs des uns et des autres et créer une nouvelle population, d'une certaine manière. Donc, elle a cette idée, en tous les cas, que c'est des gens tout à fait respectables, Et par exemple, elle fera des choses étonnantes. Par exemple, au moment de la pédagogie qu'elle donne dans ses cours du dimanche, elle réfléchit aux mathématiques et elle dit il faut apprendre aux jeunes canaques ou aux moins jeunes, parce qu'elle a en fait des adultes aussi, il faut plutôt leur apprendre l'algèbre, là ils y arrivent, la question de l'arithmétique est plus difficile pour eux. Donc elle a vraiment une approche tout à fait humanisée en fait de gens dont il faut rappeler que dans cette période, ils sont, les canaques, particulièrement disqualifiés en termes culturels par la colonisation, puisqu'on y voit des gens qui ont été anthropophages, ce qui est à peu près le pire pour un Européen, des sauvages absolus. Hein.
La révolte des canaques, la grande insurrection, éclate comme un surgissement en 1878. Elle est sans doute épouvantée par les massacres commis par les rebelles qui ne font pas nécessairement la différence entre les Européens, mais...
Ils ont débarqué au petit matin sans prévenir. Il a suffi de 3 minutes. Une vraie boucherie. Ils les ont tous massacrés. Lui, sa femme et ses enfants. Il n'y a que le petit qui a été épargné, on se demande pourquoi. La femme du colon est canac, enlevée, paraît-il, il y a 2 ans. C'est la mère des petits.
Cher Clémenceau, la situation ici s'envenime. On compte des morts de tous côtés. Les tribus canaques se sont révoltées, avec force. La violence ne fait que commencer. Et comme toujours, ce sont les plus faibles qui en souffrent.
Elle a dû bouillir d'être tenue à distance de l'action. Mais elle n'aurait pas accepté de s'en rapprocher en se ralliant aux troupes de la répression française, ce que purent faire quelques-uns des déportés. Elle a, dès la première année, porté la plus grande attention, grâce à son premier informateur, aux contes et aux légendes canaques, dont elle a publié quelques extraits dans les petites affiches de Nouméa, une publication qu'elle a reprise plus tard. Son idée, c'est de faire murmurer à l'oreille de la vieille Europe les récits de l'enfance de l'humanité.
Les souffles. Quel souffle vous pousse ? Fille, qui donc vous poursuit ? Avez-vous passé sous l'arbre aveuglant pour que vous alliez ainsi devant vous, sans voir qu'il en manque une, chaque fois que vous passez sur le bord du gouffre ? C'est que chaque fois le gouffre en boit une. La première, c'était Kéa, la fille noire, grande comme un niaouli. Elle a tendu les bras et a sauté. La seconde, c'était Kéri, la fleur de corail. Elle a répondu « Me voici » et s'est jetée. La troisième, c'est Lyra, l'aérienne. Elle a crié « J'y vole » et s'est précipitée. À qui tendais-tu les bras, ô Kéa ? À qui répondais-tu, Kéri ? Vers qui t'envolais-tu, Lyra ? Elles ne savent. Elles allaient vers les souffles qui appellent, chassées par les souffles qui poursuivent.
Lui par Claude Retta, une légende canaque sur les voies vantées du futur.
La langue de Louise Michel, c'est une langue qu'elle fabrique d'une certaine manière, sa langue d'écrivaine. C'est une langue qu'elle fabrique à l'image du langage nouveau qu'elle rêve pour l'humanité. C'est-à-dire un langage nouveau qui pourrait dire le monde nouveau et qui, pour cela, s'accroît de possibilités nouvelles en assimilant des mots de toutes les langues. Donc ces mots de toutes les langues, il y a l'argot, il y a effectivement toutes les langues, il y a du russe, il y a du chinois dans les œuvres de Louise Michel, il y a de l'anglais, bien entendu, et des anglicismes à foison. Et la Nouvelle-Calédonie, de ce point de vue-là, est un véritable bonheur linguistique. Je ne sais plus si c'est 37 tribus et 37 langues ou quelque chose de cet ordre, je ne voudrais pas dire de bêtises, et j'en dis sûrement, mais en tout cas, c'est un grand nombre de tribus et de langues. Louise Michel est heureuse dans ce milieu linguistique, et qui plus est, il n'y a pas seulement un grand nombre de tribus et de langues, mais il y a une sorte de langue de plus, qui est ce qu'elle appelle le bishlamar, ce qu'on appelle aujourd'hui le bislama, qui était une langue utilisée pour le commerce et qui agglomérait des mots anglais, des mots locaux, etc. Ça, ça fait vraiment la joie de Louise Michel parce qu'elle y voit un dynamisme linguistique en acte. Et c'est ce qu'elle fait dans ses écrits, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas. Alors, les anglicismes ne lui font évidemment pas peur, mais elle n'hésite pas à malaxer tous les vocabulaires, à les intégrer à ses propres phrases, en les modifiant plus ou moins, en forgeant des mots, alors quelquefois aventureux, quelquefois très réussis. C'est un peu le langage d'Orange Mécanique avant l'heure.
Sois prudent, Odim, si continuer à vivre en vie est ce que tu désires.
Yar Billon, grand bol chèvre, yar bouillant toc. Je te prends au point, ou nous ou au bris de vin, quand tu veux. Je refuse que tu ne touches toc comme ça sans raison. Oui, et moi j'ai bien raison de refuser.
Je te donne une leçon de l'âme quand tu voudras.
Doubidoub. Un peu à bout peut-être. Mais n'en disons pas plus. Chemin de lit, chemin de vie. Vaut mieux se mettre en chemin et trouver le Spatchka. Dakodak ?
Dakodak. Dakodak.
France Inter. Intelligence, service. Jean Lebrun.
Bon, revenons. En 1879, l'étau de la détention s'est desserré pour Louise Michel. Elle peut même fonder une école à Nouméa, que ses amis de Paris l'aident à financer. Les mêmes pétitionnent pour sa libération. Parce que, en 1879, une première loi d'amnistie partielle a été votée par la Chambre des députés. Mais Louise Michel ne veut évidemment bénéficier d'aucun passe-droit.
Monsieur Lebrun, Louise Michel se voulait une parmi les autres et n'acceptait sa remise en liberté qu'à la condition que tous soient libérés.
Eh bien, ce sera possible en 1880. Elle est accueillie triomphalement au Havre et à Paris, à la gare Saint-Lazare. Le cadavre de la Commune se tient debout comme grandi. Et elle n'a aucunement l'intention de dételer. La voilà, oratrice de meeting, et de plus en plus marquée libertaire. Ses adversaires disent hystérique, détraquée, illuminée. Alors tous les surnoms lui sont appliqués, comme elle est accusée de faire partie des pétroleuses. On va retenir cette image, ange du pétrole. Et parmi ses détracteurs, elle va avoir la surprise de trouver Fayet, l'inspecteur d'académie, celui-là même qui l'avait protégé autrefois en Haute-Marne, Claude Retta.
En 1880, Fayet publie dans la presse les poèmes de Louise Michel pour faire partager à l'opinion sa préoccupation sur le cas Louise Michel. Comment Louise Michel, dit-il, est-elle devenue ce qu'elle est, c'est-à-dire la catastrophe Louise Michel, à ses yeux. Communarde, prêchant la révolte, etc. Donc Fayet écrit un article, mais assassin. Assassin et en des termes qui portent. Il représente que Louise Michel n'est plus très jeune, qu'elle va mourir à l'hospice, abandonnée de tous, que c'est vraiment sa vie est un échec total. Et il se demande pourquoi, donc comment elle est-elle arrivée là. Et pour lui, c'est quelqu'un qui, toute cultivée qu'elle était, toute portée aux lettres qu'elle était, n'avait justement pas de repères assez forts pour résister aux entraînements néfastes, ou à ce qu'il considère évidemment comme tel. Et là, c'est sa grande idée, c'est que les lettres, la culture, ne sont pas un rempart contre la déchéance. On peut imaginer que cette lettre a été lue par Louise Michel avec consternation et sans doute avec douleur, étant donné la très grande confiance qu'elle avait dans cette espèce de figure paternelle et tutélaire. Elle répond à Fayet, par voie de presse également, une lettre extrêmement respectueuse et sensible, où elle reprend la question. Et cette question, elle ne cesse d'y répondre, en fait, à travers ses mémoires et à travers d'autres œuvres également. Elle ne cesse d'y répondre à travers une méditation sur ce qu'elle appelle la transformation. Elle s'est transformée.
La transformation. Dans son écriture, Louise Michel guette les métamorphoses du vivant. Elle repère ce qui germe sous la terre, puis elle entend comme un ébranlement, c'est le printemps, et ses mots se déploient de façon concentrique, comme une fleur. Et au cœur du nouveau, elle voit le beau. Alors tous ceux qui s'arrêtent aux clichés et répètent qu'elle est laide, ils ne savent pas ce qu'est le vrai beau. Elle a aussi des alliés. Les journalistes, qui utilisent de plus en plus l'interview, grimpent jusqu'à son modeste appartement. Un perroquet les accueille d'un sonore « Bonjour, citoyen !» Sur le pupitre du piano, il voit une partition de Beethoven, la tempête, évidemment, et partout, un encombrement de manuscrits, une pièce de théâtre ici, une nouvelle là, plus loin, un roman, le volume de ses mémoires, qu'elle a dû sortir pour devancer ceux qui colportent des légendes. Son éditeur, d'ailleurs, a travaillé en dépit du bon sens. Il voulait un rebondissement par page. Et elle voulait exposer ses idées. Elle est devenue une célébrité.
Elle n'était pas jolie, elle n'était pas très jolie. J'ai de belles photos d'elle. J'ai de belles, beaux documents d'elle. Ah oui. C'était une grande femme. Vous savez, douce, charmante. Tout le contraire. La pétroleuse. C'est une femme tranquille, douce. Quand elle venait chez nous à Auteuil, mais il y avait foule, il y avait 200 personnes. Louise Michel est là. Vous criez à mort, c'est terrible. Oui. Oh, elle passait. Oh.
Comment était-elle, Louise Michel?
Grande femme, très, très sympathique, puis après, très triste dans son genre, et puis après, quand elle parlait, elle pleurait tout le temps. Et quand elle faisait ses conférences, elle mettait toujours les femmes en avant, et les hommes en arrière. Et il parlait aux femmes seulement, en disant que les femmes, c'était eux qui tenaient les enfants et qui devaient donner la bonne éducation. Voilà.
Et quelle sorte de public avait-elle, Louise Michel?
Principalement rien que des ouvriers ou des ouvrières.
Qui sortaient de l'usine pour l'écouter?
Sortaient de l'usine pour l'écouter.
Celui qu'on vient d'entendre, Jean Galliani, c'est un filleul de Louise Michel. Beaucoup de parents l'ont voulu comme marraine. On sait par exemple que la femme de Charles Péguy était une filleule de Louise Michel. C'est une filiation inattendue. Dans les années 1880, elle a encore souvent maille à partir avec la justice. 1883 particulièrement. Elle participe à une manifestation esplanade des Invalides qui dégénère en pillage de boulangerie. Elle est condamnée à 6 ans de réclusion pour incitation au désordre. Et il faudra la présence de Clémenceau le fidèle pour qu'en 1885, elle soit autorisée à veiller les derniers moments de sa mère Marianne. Elle n'est libérée qu'en 1886 et encore proteste-t-elle parce que c'est la conséquence d'une grâce présidentielle. Et en 1890, rebelote, elle prend la parole avec son camarade anarchiste Thévenin dans une réunion publique à Vienne, dans l'Isère, le 29 avril. Le 1er mai s'annonce chaud. Claude Retta prépare un livre sur celui de Vienne, donc en 1890.
Alors, à Vienne, ça a été effectivement violent. Alors, ces faits de violence, qu'est-ce que c'est? C'est le maire qu'on a expulsé de la salle de conférence le 1er mai, toujours au théâtre de Vienne. Et c'est également le commissaire de police, un certain Villemin, qui a été roué de coups, le malheureux, à coups de poing américain, et qu'on a laissé tout saignant sur le carreau. Toujours est-il que ça a été vraiment le spectre de la violence anarchiste, c'est-à-dire de la violence incontrôlable, de la violence hors cadre, de la violence qui refuse le système politique républicain. On incrimine Louise Michel et Thévenin comme les responsables de cette explosion de violence à Vienne le 1er mai. Sauf que Louise Michel est mise en prison, mais est mise ensuite en liberté sans ses camarades, courant mai. Que cette mise en liberté sans les camarades, c'est exactement le bouton sur lequel il fallait presser pour mettre Louise Michel absolument hors de ses gonds. C'était une liberté infamante. Garder les camarades en prison et pas elle, ça avait l'air de signifier qu'elle était pas du bon côté, en quelque sorte. Mais c'est également qu'elle a parfaitement compris que le pouvoir en face d'elle cherche systématiquement à diviser les militants anarchistes ou socialistes et à jouer l'un contre l'autre. Donc Louise Michel a parfaitement compris la tactique et a parfaitement compris que la seule réponse, c'était d'opposer une sorte d'affirmation d'unité.
Après avoir saccagé sa cellule, il s'en est fallu de peu que Louise Michel ne soit internée comme forcenée. Mais le ministre de l'Intérieur a eu l'intelligence de mettre le holà aux velléités des médecins. Son nom aurait été associé définitivement à cette faute. On n'a pas retenu le nom du juge d'instruction de cette affaire de Vienne. Voici la lettre dans laquelle Louise Michel le tense.
Il est temps de donner aux choses leur véritable caractère. À chacun ses responsabilités. Les témoins ont dit que je parlais par figure. Il faut bien que la figure arrive quand les mots manquent. En voici dont je me souviens et qui vous feront aussi vous révolter contre la pensée que j'irai en liberté avant les autres. Allez le 1er mai porter à vos maîtres des doléances. Ce sont les mugissements des troupeaux qui n'en vont pas moins à l'abattoir. La journée de 8 heures, puisque vous la voulez tous, prenez-la et ne la demandez pas, mais c'est mourir en 8 heures au lieu de mourir en 12. La société est composée de rouages qui moulent les multitudes. Il faut briser les rouages, broyer les meules qui pressurent les travailleurs pour en faire le pain et le vin des capitalistes. C'est ainsi qu'ils communient sous les deux espèces dans le sang des foules. Le capital est le vampire auquel il faut mettre le pieu au cœur. Que tout soit mort par la grève générale, une grève sans caisse, on n'en peut pas avoir, et il faut que le capital sombre pour que l'humanité soit délivrée. Les bêtes du bois peuvent boire à la source, on fera de même, tout ce qui est entassé servira.
Jusqu'au bout, en 1904, une conférence par jour, Louise Michel tiendra des propos de la même farine. À la fin de 1904, elle est en Algérie, peu après son retour d'Afrique du Nord, elle meurt à Marseille, le 9 janvier 1905. « Je ne regretterai pas de mourir, puisque dans les harmonies éternelles, un être qui meurt, une feuille qui tombe, un monde qui disparaît, ce n'est qu'un silence voulu par quelques rythmes que nous ne connaissons pas encore. » Nous avons entendu Claude Retta qui a publié « Art vaincra » et « La révolution en comptant, les contes et légendes de Louise Michel » aux éditions Bleu Autour. Isabelle Merle chez Anacharsis, « La Nouvelle-Calédonie, expérience coloniale ». À la prise de son, Stéphane Beaufils, à la maison de la radio et de la musique, Valérie Lavalard. Les agents d'intelligence service, Frédéric Martin et Franck Olivard. La réalisation, Audrey Ripouille.